Et c'est bon de chanter ensemble, je dirais l'unisson, je dirais de même cœur, nous voulons élever le Seigneur. Et pour nous, il y a cette certitude qu'il est le même, il ne change pas. Il est toujours dans sa gloire, il n'y a pas d'ombre de variation, et c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que tout ce qu'il dit est vrai pour nous. Hein, heureux de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin, mais avant, je voudrais vous faire les annonces. On va suivre aujourd'hui un petit peu avec un PowerPoint aussi. Et ce matin, on a merci. Si tu peux mettre à partir du début, voilà. Vas-y, c'est bon. Voilà. Ce matin, donc le titre du message, c'est Conseil de la lettre. Tu peux appuyer encore. Voilà. Il faut cliquer juste avec la flèche en bas sur ton clavier. Voilà. Conseil de la lettre aux Hébreux ou conseil aux chrétiens hébreux. Indécis, j'ai appelé ça comme ça, mais comme il n'y a pas beaucoup de place, j'ai mis conseil de la lettre aux Hébreux. Alors, permettez-moi de vous amener tous dans votre tête, hein, parce que je vais pas prendre l'avion avec vous. On va revenir dans des siècles passés, au premier siècle, et on va venir maintenant là considérer l'épître aux Hébreux. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant des années, les lectures de l'épître aux Hébreux je me disais, ça ne me concerne pas trop parce que ça concerne plus le peuple juif et c'est lié aux Hébreux, donc c'est lié à tout ce que l'Ancien Testament dit, donc il faut connaître les pratiques, donc c'est intéressant, mais bon, pendant des années j'ai pensé comme ça. Mais je m'aperçois que plus ça va, plus je me dis, mais c'est stupide de penser ça, c'est léger. Hein, voilà. Revenons ensemble et on va revenir dans nos têtes, et j'introduis, ça va être un peu long l'introduction, mais on va entrer dans des réflexions. On arrive au Concile de Jérusalem, vous savez, dans Acte 15. L'Église avait traité le problème de la relation des croyants, donc les non-juifs. Suivez-moi, hein, attachez vos ceintures parce que on va aller vite, hein. D'accord? L'Église traitait le problème de la relation des croyants, c'est-à-dire les non-juifs ou les gentils, ça dépend comment vous pouvez l'appeler, avec la loi de Moïse. Ce qui fait que les nouveaux chrétiens, qui n'étaient pas juifs, quand ils se convertissaient, et les voici que derrière Paul, etc., vous avez des juifs qui étaient des judaïsants, hein, des juifs, donc qui étaient vraiment engagés dans la loi. Ils venaient derrière et disaient, il faut se faire circoncire, il faut pratiquer la loi de Moïse, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y avait toute une polémique. Si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Il y avait une sorte de dualité entre deux pensées qui étaient là. Donc Paul et Barnabas, ils nous ont dit, la Bible nous le dit, je me permets de passer le passage, elle va dire, ils ont eu une vive discussion avec ces hommes venus de la Judée. À la suite de cela, qu'est-ce qu'ils prennent comme décision? Ils disent, on va descendre à Jérusalem et on va s'expliquer devant les apôtres. Et le concile de Jérusalem, acte 15, c'est le premier concile, hein, Paul et Barnabas donc vont aller et montent à Jérusalem pour rencontrer les apôtres et les anciens. Et il faut trouver une solution. Je ne sais plus. Vas-y, peut-être la seconde diapo. Excusez-moi, j'ai oublié le. Vas-y, appuie. Ouais, c'est ça. Vas-y, appuie encore une fois. Encore? Voilà. Merci. Encore une fois. Voilà. Voilà. Et en fait, les Juifs chrétiens, à l'époque, continuaient à pratiquer la loi. Et il y avait une ambiguïté, il y avait un flou qui faisait qu'il y avait des tensions entre les chrétiens non juifs, qui eux ne voyaient pas à quoi servait la loi, et les chrétiens juifs, qui eux disaient qu'il faut pratiquer la loi. Ça va, vous êtes avec moi, vous n'êtes pas perdus. Nous sommes là à la fin du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et puis il nous est dit donc ils sont arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, c'est Acte 15, verset 4, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'est-à-dire que Paul et Barnabas, ils vont exprimer tout ce qui s'est passé et tout ce qu'ils ont vu comme révélation de la part de Dieu, et il y a eu tout un tas d'événements. Et puis ils vont exposer, si vous voulez, c'est le premier exposé missionnaire. Hein. Ils reviennent, ils expliquent ce qui s'est passé. Hein, et c'est un exposé extraordinaire. Et puis, face à ce dilemme, vous pourrez lire Acte 15, je permets de passer dessus rapidement. Au verset 19, il dira, et c'est l'apôtre Jacques qui dit ceci, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés, et du sang, tu peux cliquer, voilà. Hein. Voilà. Et puis, nous arrivons là, et 10 ans plus tard, environ, après cet événement d'Acte 15, de ce concile, nous voyons que la lettre aux Hébreux va être écrite. Alors tout ça, excusez-moi, tout ça, je l'ai pompé aussi au Corinthé. Hein. On a fait le Nouveau Testament, donc il y a des choses intéressantes qui sont là. Donc vous voyez que c'est intéressant de faire le Corinthé. C'est pas, ça m'évite de faire une prédication, mais c'est que ça me donne d'autres argumentations aussi supplémentaires. La difficulté, c'est que l'Épître aux Hébreux, dans laquelle on va se pencher ce matin, les destinataires, on ne sait pas si c'était des Hébreux qui étaient à Rome, des Juifs qui étaient à Rome, ou est-ce que c'était des Juifs qui étaient à Babylone, est-ce que c'était des Juifs... Voilà, il y avait toute une réflexion de fond. Quoi qu'il en soit, ce qu'on sait pour les destinataires de l'Épître aux Hébreux, de la lettre aux Hébreux, c'est qu'ils étaient Hébreux de nationalité et chrétiens par profession de foi. C'est-à-dire qu'ils étaient des Hébreux judaïsants de l'époque qui sont devenus chrétiens. Et il y a un changement. Et on peut comprendre que dans le premier siècle, dans l'histoire de l'Église, ce changement n'est pas évident à faire. Hein. Pendant des siècles, on vit dans une forme de loi. Et voici que dans le Nouveau Testament, c'est un basculement, je dirais, une transition vers la grâce, et surtout les évangiles. Et puis on arrive dans la grâce. Mais le problème, c'est que les juifs chrétiens continuent de pratiquer la loi. Hein, continuent de pratiquer la loi. Donc l'Épître aux Hébreux a été écrite pour vraiment amener un éclairage, une explication aux Hébreux, pour qu'ils comprennent tout cela. Hein. Cependant, voilà qu'il y avait aussi des indécis. Des indécis, dans l'Épître aux Hébreux, on va voir certaines choses. Ils ne savaient pas s'ils devaient persévérer dans le christianisme ou revenir au judaïsme. Et étant dans le flou, vous voyez, des fois on peut tâtonner. Et eux, ils étaient là et tâtonnaient, ils ne savaient pas s'ils devaient aller plus loin, etc. Et l'Épître aux Hébreux, en fait, elle vient donner un éclairage, elle vient révéler, préciser ces choses qui étaient un peu floues jusqu'à présent. D'accord ? Alors, voyons voir quelques attitudes des chrétiens hébreux indécis à l'époque. Je vous prends quelques passages. Le premier, c'est celui-ci. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Alors ici, ce verset a été utilisé plusieurs fois pour d'autres circonstances. En fait, ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, les premiers juifs chrétiens, ils étaient comme dans l'indécision. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils abandonnaient le culte public, les réunions publiques de l'époque, et ils se mettaient à part. Aussi, dans l'Épître aux Hébreux, il y a un encouragement à ne pas abandonner le culte public. Certains délaissaient donc les réunions, le culte public. Et je vais prendre un autre exemple, il y en a quatre. Il est dit, attendez un mètre à la suite, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Hein? Vous remarquerez, il y a souvent dans les Épîtres aux Hébreux, vous allez voir, il y a toujours des conseils qui sont donnés. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alors ça a deux pensées, deux axes qui peuvent être complémentaires. Hein, c'est que quelque part, tu peux l'appuyer. Ici, il devenait faible dans la foi. Et comme il devenait faible dans la foi, ici, il y a le conseil de celui qui a écrit, on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il va dire vraiment de se débarrasser de toute lassitude, quelque part, de toute faiblesse, on peut le penser comme ça. Hein, et il encourage à persévérer, à ne pas baisser les bras. Je ne sais pas vous si vous avez un jour baissé les bras. On a baissé les bras un jour ou un autre dans la notre marche avec Dieu. Mais on fera la conclusion, l'application personnelle à la fin. Là, je voudrais m'arrêter aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux s'adresse aux chrétiens donc, d'origine juive qui subissaient la persécution parce qu'en même temps, là, à cette époque-là, l'Église n'a pas été tranquille. Les chrétiens n'étaient pas tranquilles. Vous savez, dès le départ, on le voit même dans le livre des Actes, il y a de la persécution. Et alors, une persécution qui va s'intensifier, qui va être complexe pour les chrétiens. Donc, non seulement il y avait ce dilemme, mais en plus, il y avait la persécution, donc il pouvait y avoir des découragements. Ils étaient abattus, ils étaient affaiblis. Mais une autre interprétation de ce verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis », est celle-ci. C'est que ça nous fait penser à la prière. Je m'explique. Le psaume 95, verset 6, dira « Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Le fait de fléchir le genou, on retrouve la notion de genou qui se affaiblit. 1 Timothée 2, 8 dira « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures ». Et on pourrait prendre d'autres versets qui nous parlent de la prière, qui nous invite ici, quand il dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis ». Souvent, ça a un parallèle, avec l'Ancien Testament, avec certains versets qui parlent de fait de prier, la notion d'être à genoux, comme Daniel et d'autres qui vont prier à genoux, dans certaines circonstances, hein, élevant des mains pures. Il y avait un problème, c'était que, donc il n'assistait pas au culte public, il devenait faible dans la foi. Et on peut comprendre ce que, des fois, les églises persécutées subissent. Ça devient compliqué. Hein. Et c'était une réalité. Deux autres exemples, et après on va passer à un autre point. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Chapitre 13, verset 9. Parce qu'il faut savoir, si vous ne savez pas un jour quoi faire, je vous invite à étudier l'histoire de l'église au fil des siècles. Et vous allez voir que dès le départ, ça part dans tous les sens. Il y a des fausses doctrines, il y a des hérésies qui sortent, le marcionisme, il y a tout un tas de noms qui sont un peu spéciaux, de personnes qui vont connaître certaines réalités de la parole et qui, dans le temps, vont rapidement donner une petite déviance ou une déviation de doctrine. Hein? Et la vérité, c'est qu'ils n'étaient pas affermis dans la doctrine. Et ça, tu peux appuyer, ils n'étaient pas affermis dans la doctrine. Donc, quand on n'est pas fermé dans la doctrine, on écoute tout ce qui passe et on saisit ce qui nous semble être bien, qui plaît à nos oreilles. Et ça, c'est une chose terrible. Vous savez que les fausses doctrines, globalement, elles plaisent à la chair. La chair, vous comprenez ? À nos sentiments. Elles plaisent à parce que, quelque part, c'est la parole de Dieu, mais qui s'adapte peu à peu, on l'adapte un petit peu, on l'arrange un petit peu pour satisfaire sa chair. Et alors on pense que c'est bien et on se laisse avoir. Et vous savez qu'on est tous sujets à ça si on ne veille pas. Et c'est pour ça que la Bible nous invite à vraiment nous enraciner dans la grâce de Dieu, à connaître la Bible. C'est pour ça aussi que l'Église, le Seigneur a voulu qu'il y ait des enseignements dans les Églises. Pourquoi ? Parce qu'il veut que l'Église soit, elle accomplisse son ministère réellement. Mais comment amener une déviation ? En donnant de fausses vérités qui vont petit à petit amener les personnes à sortir du cadre. Hein. Alors les fausses doctrines plaisent à la chair. Et adapter la parole pour se faire plaisir, excusez-moi, c'est pas ce que Dieu a dit. Et au contraire, il dira qu'il ne faut même pas changer un iota. Comme pour dire, attention, la parole, c'est reste la parole et elle ne doit pas être un petit peu adaptée ou galvaudée à ce que je souhaite, mais je dois plutôt moins soumettre mon cœur à la parole et à ses critères, même si des fois, ça me dérange, même si des fois, ça m'accuse ou ça me montre mon péché. Hein. Vous savez, il y avait aussi des hérésies. Hein, des hérésies. C'est-à-dire que, autant il y avait la persécution tout à l'heure, dans l'Épître aux Hébreux, je disais, les premières églises, elle a subi la persécution, elle a subi pendant des siècles la persécution, au moins jusqu'au 3e, voire 4e siècle, une persécution terrible. Selon les empereurs romains, il y avait des persécutions au moins, ou pas. Après, c'est Constantin qui, lui, va commencer un petit peu à christianiser, à dire le christianisme, c'est la religion officielle, mais ça va être une autre étape. Et c'est peut-être pas, les commentateurs disent que c'est peut-être pas le mieux, mais ça, chacun pense ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, il y avait la pression extérieure, mais il y a aussi quelque chose qui venait du milieu du peuple. Et dans le milieu du peuple, c'est-à-dire, c'est l'hérésie. L'hérésie, ça provient du cœur des églises. Hein. Ça désigne en fait toute croyance qui vise à nuire ou à détruire la foi qui sauve l'hérésie. Donc le danger du peuple de Dieu, le danger d'une église, le danger de la première église, de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il y avait des hérésies qui pouvaient naître en son sein. Et l'apôtre Jean le dit clairement, 1 Jean chapitre 4 verset 3, on l'a vu lorsqu'on a travaillé l'Apocalypse, hein, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est en danger dans le monde. Est déjà dans le monde, qu'est-ce que j'ai dit hein? L'hérésie, c'est un danger qui ne vient pas du monde, c'est quelque chose, une forme de persécution, mais ça vient de l'intérieur de l'Église. Quand je dis l'Église, je parle globalement. Hein? Sous forme de fausses doctrines. Et c'est celle qui cause le plus de dommages dans les Églises, à cette époque-là. C'est des choses qui vont être compliquées. Et quand vous lisez certains récits, vous comprenez de l'historique, vous comprenez que ça a un impact et que ça a une conséquence néfaste. L'insistance dans la parole, vous le voyez comme moi, concernant la pureté de la doctrine, est caractérisé, sachez-le, on voyait ça dans la semaine avec le dernier cours qu'on a fait, c'est que les épîtres, la seconde épître de Pierre, toutes les épîtres de Jean, 1, 2, 3 Jean, l'épître de Jude, elles ont été écrites, vous savez pourquoi ? Principalement pour combattre les hérésies qui venaient du milieu chrétien. Quand nous lisons la Bible, des fois on n'y pense pas, on lit, bon ok, on traverse, mais posons-nous des questions. Et la question c'est souvent pourquoi là, ça a été écrit ? Quel était le but de cette épître ou de cette lettre ? À qui était le destinataire ? Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi il a dit ça ? Et c'est pas facile bien sûr, parce qu'il faut aller chercher, il faut réfléchir, il faut trouver peut-être des comparatifs, des parallèles, etc. Mais là je répète, la seconde épître de Pierre, les trois épîtres de Jean, 1, 2, 3, et Jude sont écrits pour dénoncer les hérésies qui sortaient, qui pointaient déjà dans le peuple de Dieu. Alors vous dites, oh, c'est pas intéressant tout ça aujourd'hui, pourquoi il parle de ça, c'est négatif. Non, je dis voilà ce qui s'est passé. Hein, d'accord ? Et puis, dernier aspect, et puis il y en aurait peut-être d'autres, mais je voudrais m'arrêter là, pour ce premier point. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Alors là, en fait, ils n'étaient pas attachés, tu peux cliquer, ils n'étaient pas attachés aux Écritures. C'est-à-dire que, rappelez-vous, à cette époque-là, ils avaient quoi comme écrit ? Ils n'avaient que l'Ancien Testament. D'accord ? Donc il y avait des choses qui pouvaient leur échapper. Bien sûr, il y avait déjà des copies des évangiles, mais il n'y en avait pas tant que ça, puis ce n'était pas sur Internet. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'était plus compliqué. Il n'était pas attaché aux Écritures. Voici ce qu'il dira, hein, je vous le lis. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous à un négligent si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit quelque part qu'il faut s'appuyer sur la parole qui a été prouvé, démontré, annoncé par le Seigneur. Pas négliger ce si grand salut. Comme pour dire, faites attention, ne partez pas de travers. Donc, on peut comprendre, j'ai pris quatre exemples, mais on peut comprendre qu'il y avait des chrétiens qui étaient indécis, qui étaient en difficulté. Hein, ça c'est, donc, dans les années, à partir des années 60 à peu près, hein, et par la suite. Maintenant, on va voir ce qui est pour moi essentiel pour répondre. Et rappelez-vous, hein, c'est le conseil de Dieu, quelque part, de l'Épître aux Hébreux, le conseil de Dieu hein, pour les chrétiens qui sont indécis. Voici ce que va... Tu peux mettre votre diapo, s'il te plaît ? Voilà. Conseil de Dieu. Voilà, on va s'arrêter là. Hein. Ici, en fait, dans l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas une argumentation en disant, vous faites comme ça, alors voyez, vous n'auriez pas dû, mais parce que c'est une morale, parce que, vous savez, ça, on peut le faire facilement, c'est de la morale. Il ne dit pas, ouais, mais vous reprenez-vous, vous êtes des idiots, pourquoi vous ne comprenez pas, etc., etc. Quelle est la réponse inspirée de Dieu à cette indécision ? C'est celle-ci. C'est pas une apologie, c'est pas un argumentaire bien étayé, c'est une personne. C'est Jésus. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux, inspiré par l'Esprit, met en évidence, met l'éclairage, le focus sur la personne de Jésus. Et on voit ici, si vous regardez, Jésus plus grand que, tu peux mettre, que les prophètes. Et hein, vous avez les versets, alors ici c'est le prophète Jérémie, hein, mais j'ai essayé de mettre des images parce que je me suis dit s'il y avait des enfants, mais il y a le Jip aujourd'hui. C'est le prophète Jérémie. Il est plus grand que les prophètes parce qu'il y avait des questionnements sur la personne de Jésus en tant qu'Hébreu. Il est plus grand que les anges, vous avez les références, hein, je ne vais pas vous les lire, ce serait trop long. Il est plus grand que Moïse, et il va dire aussi, ouais, tu peux cliquer encore, il va dire aussi qu'il est plus grand que Josué, allusion à un moment donné, un passage juste. Hein. Voilà, c'est comme si l'Esprit de Dieu voulait dire, écoutez, vous appuyez sur les prophètes, c'est bien, mais Jésus plus grand que les prophètes. C'est comme s'il disait les anges, oui, il y a eu des anges, il y a eu des situations voilà, comme je sais pas moi, Jacob, etc. Il y a plusieurs anges qui se sont révélés, mais Jésus est plus grand que les anges. Moïse, votre père, celui qui a été le médiateur à l'époque entre Dieu et le peuple d'Israël, mais Jésus est plus grand que Moïse, et puis Josué, et puis ils ont pu continuer la liste, et il y a une vérité. Deuxièmement, Jésus Et si vous regardez l'Épître aux Hébreux, c'est vraiment le parallèle avec le tabernacle, avec tout un tas de pensées, le sacrifice, le souverain sacrificateur, etc., etc., Melchisédek, il y a tout un tas de choses. Jésus est le parfait souverain sacrificateur, il est le souverain sacrificateur par excellence. Dans l'Ancien Testament, vous savez qu'il y avait un souverain sacrificateur qui était là, préposé à faire une fois l'année l'aspersion par le sang, l'expiation pour le peuple, l'expiation du péché. Il y avait une procédure avec le bouc Azazel, l'autre bouc. Il y avait tout un tas de choses qui devaient être faites et c'était solennel. Et toutes les tribus se tenaient autour donc du tabernacle. Faisaient silence parce que c'était le moment le plus important du peuple, de la vie du peuple. Il fallait faire cela. Hein. Mais Jésus est le parfait souverain sacrificateur. Vas-y, encore. Parce que vous verrez les qualifications. Si vous regardez toutes les références, les qualifications, pas trop vite, hein, s'il te plaît, les qualifications qui sont mentionnées concernant Jésus qui est le souverain sacrificateur, le caractère du souverain sacrificateur, mais également le ministère, tu peux y aller, du souverain sacrificateur, vont, et là tu peux cliquer, vont définir qu'ils sont parfaits et éternels. C'est-à-dire que si dans l'Ancien Testament, et si dans la pratique auparavant, parce qu'ils font allusion bien sûr, au tabernacle dans l'Ancien Testament. Dans la pratique, c'était des humains qui eux-mêmes devaient se dépouiller. Vous savez, quand ils ont la tunique, là, on ne la voit pas bien, là, avec le pectoral, avec les épaules et tout ça, quand il arrivait dans le tabernacle, là, qu'il allait faire l'aspersion du sang, il se tombait tout ça. Hein. Il était juste en fin lin blanc, là. Hein, parce que ce vrai sacrificateur était un homme qui avait besoin aussi de sanctifier. Il y avait toute une procédure. Hein. Et quand il arrive là, il pouvait très bien ne pas ressortir vivant. Parce qu'il était, il fallait qu'il se sanctifie vraiment. C'était un homme limité, même s'il était choisi de Dieu, même s'il avait été préposé à, il était limité. Mais Jésus, il a été sans péché. Son sacrifice a été parfait. Et la réponse, vous savez, aux fausses doctrines et toutes ces choses-là, la réponse, c'est Jésus-Christ. La réponse, c'est regardons à Jésus pleinement. Alors, je vais conclure, je croyais que je serais plus long, mais c'est pas grave, il vaut mieux être plus court que trop long. Sur bien des points, nous pouvons parfois ressembler aux Hébreux encore. Hein. Comme dit la Bible, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Pas grand chose. Hein. On retrouve un peu des différences, bien sûr. On a tout un tas de choses qu'ils n'avaient pas et vice versa, mais on retrouve un peu les mêmes subtilités ou les mêmes dysfonctionnements, des fois l'indécision, l'incompréhension. Les choses qui peuvent nous imprégner d'un sens ou d'un autre. Eux, ils avaient la culture juive qui les imprégnait, la tradition et la religion juive qui les imprégnaient fortement. Mais nous, il y a d'autres choses qui nous imprégnent. Vous n'avez jamais pensé à ça? Quelle est ma culture? Est-ce que ma culture n'est pas un obstacle à l'action de Dieu? Parfois. Vous voyez, et je me rappelle des fois, dans certaines circonstances, on m'a dit, oui, mais ça, c'est ma culture. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Je me dis, mais quelle culture tu as? Je ne critique pas. Hein. Quelle culture tu as? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce que tu penses est tout à fait bien calé par rapport à ce que la Bible dit? Et des fois, quand on lit la parole, elle est là comme un miroir. Pour dire, regarde, tu penses comme ça, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait juste. C'est pas vrai? Moi, ça m'est arrivé souvent, hein, ça m'arrive souvent encore. Des fois, on est obligé un petit peu comme un instrument, il faut l'accorder. Tout à l'heure, Aurélie a accordé plusieurs fois la guitare parce que ça se déréglait. Et notre foi, elle a besoin de s'accorder, non pas à notre pensée ou à ce qu'on aimerait bien, mais à ce que la Bible dit. Et elle donne le bon ton. Et elle donne la bonne valeur. Autre chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'un enseignement nouveau. À l'époque, il y avait tout un tas d'enseignements qui sortaient. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs, regardez. Vous verrez, dans l'histoire de l'Église. On n'a pas besoin d'un enseignement nouveau. Beaucoup pensent qu'il faut quelque chose de nouveau dans les Églises. Non, il faut retrouver le principal et revenir à Jésus. Bien sûr qu'on peut dire, oui, mais il faut adapter la forme, tout ça. Excusez-moi, ça c'est que l'enveloppe. Mais ce qui importe le plus, c'est l'intérieur, le cœur. Et le message. Et le message, c'est que Jésus est toujours le même. Est toujours le même. Et l'église, c'est Christ au centre. Le christianisme, c'est Christ au centre. C'est pas mon plaisir, c'est pas mon envie, c'est pas ce que j'aimerais. C'est Christ qui doit être élevé en gloire. Pourquoi on loue le Seigneur? Pourquoi on le bénit? Mais parce que c'est là le culte raisonnable. En offrant nos cœurs, nos corps, on loue le Seigneur et on le sert et on bénit le Seigneur. Donc on n'a pas besoin d'un enseignement nouveau. Soyons pas friands que de choses nouvelles. Parce que ça, excusez-moi, c'est futile. Mais soyons plutôt conscients que ce qui est nécessaire quand nous fléchissons, quand nous affaiblissons, c'est de revenir à Jésus. Et de revenir à là, vraiment sonder les Écritures. De dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Vous savez, on n'a pas besoin de choses nouvelles, on a besoin de retrouver le bon chemin. Une meilleure connaissance de Jésus, de qui notre foi dépend du commencement à la fin. Et là, vous relisez les épîtres. Je vous invite à lire l'épître aux Hébreux, à la relire cette semaine, si vous avez l'occasion. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont, je dirais, raviver votre, ce qu'on vient de partager. Et puis, dans Hébreux 12, 14, je vais conclure ainsi. Vas-y. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que si je fixe mon regard et je cherche Dieu, et j'essaye de comprendre et je remets les choses à leur place. Je sais que Jésus a la place qui lui revient. Il est le principal. Je vais avoir dans mon cœur la possibilité maintenant de vivre pleinement près de lui, bien plus près de lui. Mais on remarque que quand on est près de lui, mais nos relations sont meilleures. C'est pas vrai? Ça veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes. On a des problèmes des fois. Mais nos relations sont différentes. Pourquoi? Parce que plus je m'approche de Jésus, plus je suis imprégné de ce qu'il est, plus ça va m'aider à vivre comme il veut que je sois. Alléluia. Donc nous ne cherchons pas à essayer de s'améliorer humainement. Cherchons à rencontrer de plus en plus le Seigneur, afin que par ce contact que j'ai avec lui, tout mon être, mes pensées, ma manière de voir, mes conceptions, soient imprégnées de la grâce de Dieu. Parce que c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair aussi, il dira par la suite. Comme pour dire, si tu marches selon l'esprit, si tu laisses l'esprit de Dieu et te révéler toujours qui est Dieu et Jésus-Christ, tu vas pouvoir vivre pleinement dans ce que Dieu veut. Mais toutes les fois où j'essaie de m'améliorer ma chair, mes amis, ça sert à rien, je perds du temps. Si je dois faire un effort, c'est chercher Dieu. Je dois chercher Dieu. Je dois rencontrer le Seigneur. Alors bien sûr, dans sa chambre, entre dans ta chambre, prie. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller que dans la chambre et que la chambre elle est bénie. Moi, je ne prie pas dans ma chambre, honnêtement, rarement. Parce que je dors dans ma chambre. Par contre, ça veut dire prendre du temps avec le Seigneur. Et la chambre, bien sûr, c'est là où on se dénude. C'est là où on va se préparer pour. Et la chambre que le Seigneur souhaite, c'est une chambre où on est vrai, Seigneur. Tu vois, je me dénude devant toi, je suis à nu devant toi, mais je peux te parler, je peux te chercher, je peux te chercher. Oui, Seigneur, j'ai besoin peut-être d'un renouveau. Ben, Seigneur, merci, parce que je suis en forme spirituellement, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'un renouveau. Peut-être quelqu'un pense ça, mais viens près du Seigneur. Entre dans ta chambre, viens dans sa communion. Oh, combien de fois il doit nous appeler? Pas vous, mais moi, des fois, il m'appelle. Vous comprenez ce que je veux dire, Il m'appelle dans ma pensée, en disant, oh, en tant que je ne t'ai pas vu, en tant qu'on ne s'est pas entretenus tous les deux. Le Seigneur ne le dit pas comme ça, mais nous le savons. Et alors, on vient plus près de lui, et on peut connaître un renouveau de vie, gloire à son nom. On va ensemble courber nos fronts. Ce conseil, bien sûr, aux indécis de l'Épître aux Hébreux, il a été laissé pour notre connaissance, pour que nous puissions aussi en tirer bénéfice et être avertis. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons pas, et je ne voulais pas présenter cela comme avec un doigt pointé, mais je voudrais dire que les besoins sont toujours les mêmes, même si les siècles passent. Mais ce qui est formidable, c'est que le Seigneur lui aussi est toujours le même. Il est toujours accessible. Et on reste recueilli, si vous voulez bien, quelques instants. Alléluia. Voilà, peut-être je voudrais donner la possibilité à quelqu'un ou quelques-uns de dire, Seigneur, moi j'ai besoin d'un renouveau dans ma vie. Je suis indécis, indécise peut-être par rapport à telle et telle chose, mais, ou ceci ou cela, mais voilà, ce qui m'importe, c'est pas tellement pointer ces choses, ce qui m'importe, c'est de dire, aujourd'hui, reçois pleinement cette force d'en haut pour faire face, pour être plus près du Seigneur. Peut-être les événements ont ébranlé certaines pensées, certaines attitudes, certaines mêmes relations. Tant de choses viennent tellement mettre à mal parfois la foi. Mais le Seigneur veut renouveler ta force et ma force. Le Seigneur veut te redonner une vigueur qui fait qu'elle dépend de ton attachement au Seigneur, de ta proximité avec le Seigneur. Le Seigneur veut faire cette grâce. Alors je ne vais pas vous demander de vous lever. Je veux juste dire dans votre cœur, prenez une décision. de dire Seigneur, je veux retrouver peut-être cet élan, je veux retrouver cette. S'il y a des choses qui viennent d'un petit peu altérer mes pensées, mes fausses conceptions, donne-moi de comprendre mieux ta parole et de mieux la saisir. Te prions ensemble et nous te louons déjà pour ta parole. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu nous as laissé. Et nous ne voulons pas être des enfants qui regardent ailleurs, qui pensent à autre chose, qui, Seigneur, s'occupent d'autre chose. Mais nous voulons aussi, Seigneur, considérer toi, notre Père, ce que tu nous as dit. Et ta parole, elle est là pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous reprendre parfois. Non pas dans le but de nous marcher dessus, nous écraser, nous accuser, mais dans le but de nous édifier, de nous fortifier. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à toujours percevoir qui tu es, à te chercher, à sonder les Écritures, mais aussi à avoir ce cœur à cœur avec toi. Seigneur, c'est une grâce de pouvoir te prier en tout temps, de pouvoir nous adresser en tout temps. Tu es toujours là, prêt à entendre nos voix, nos cœurs. Tu sais ce dont on a besoin, et tu pourrais dépasser notre responsabilité en venant nous imposer les choses, mais tu attends que nous soyons désireux, que nous mettions notre volonté, Seigneur, en action pour te chercher et pour t'aimer. Tu connais ceux qui peut-être ont besoin d'un renouveau. Seigneur, tu aimes leur cœur et tu veux donner force et courage. Et s'il y a quelques indécisions, quelques genoux affaiblis, quelques mains qui se lassent, quelques cœurs qui sont abattus, tu es celui qui renouvelle les forces. Tu es celui qui redonne force et courage. Le prophète Ésaïe a dit que les jeunes hommes chancellent bel et bien, mais ta parole dit que ceux qui se confient en l'Éternel retrouvent un plein courage et force. Et alors ils ne se lassent plus. Alors notre Père, nous prions vraiment que les uns les autres, nous tous, nous soyons fortifiés à tous égards et que nous marchions à ta suite et que nous sachions discerner ce qu'il faut laisser tomber, parfois dans nos pensées qui ne sont pas justes, de ce qui est de ta pensée. Seigneur, aide-nous, on a besoin de toi parce que sans ton esprit et sans cette révélation, ça reste un livre fermé pour nous. Mais nous voulons une parole, Seigneur, vivante, vivace, efficace, comme cette épée à double tranchant. Nous te louons, Seigneur, nous te louons pour ce qui tu es. Nous voulons te rendre la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Voilà.